Flash Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat.
En compagnie de Jacques-Daniel Rochat, on fait l'exploration des livres de la Bible. Et dans l'émission du jour, ce sont les écrits de Michée qui seront sous la loupe. Alors Jacques-Daniel, bonjour avant
tout. Bonjour Christine.
Qui est Michée ?
Alors Michée était un prophète, mais c'était surtout un homme de condition humble qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc à cette époque, le pays d'Israël était divisé en deux royaumes, avec une capitale à Jérusalem et l'autre à Samarie. Chacun de ces deux royaumes se considérait comme le meilleur. Mais plusieurs prophètes vont adresser des avertissements, parmi eux le célèbre prophète Ésaïe, mais aussi Michée.
Alors vous l'avez dit, c'est un homme simple, mais pourtant c'est un homme que Dieu va utiliser pour parler à son peuple. Quel est le message de Michée ?
Alors les premières paroles de ce livre sont très impressionnantes, parce qu'avec Michée, nous sommes transportés dans la dimension divine. Donc on quitte carrément la situation de l'époque, le sable d'Israël, etc. Alors là-bas, dans cette dimension éternelle et divine, il y a quelque chose de très important qui se passe. Écoutons ce que Michée nous révèle.
Écoutez tous les peuples, le Seigneur Dieu va témoigner contre vous depuis son sanctuaire. Voici que le Seigneur sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauts lieux de la terre. Les montagnes fondent sous ses pas, les fonds des vallées se crevassent comme la cire devant le feu, comme l'eau répandue sur une pente. Tout cela à cause de la révolte de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël.
Alors, on voit un petit peu le tableau, hein. C'est comme une présence qui se lève, et puis avec une puissance extraordinaire, puisque même les montagnes commencent à fondre comme de la cire, etc. Donc il y a quelque chose d'absolument grandiose. Et ces paroles de Michée ont dû faire l'effet d'une bombe en Israël, parce qu'à ce moment-là, eh bien, beaucoup de personnes pensaient avoir Dieu dans leur poche. Et on peut se rappeler, il y avait ces lieux saints, dont bien sûr le temple de Jérusalem, alors un petit sacrifice, une petite prière, un petit chant, etc. Et puis, en plus, beaucoup de faux prophètes annonçaient des temps heureux en disant « Oui, mais Dieu va encore vous bénir, vous apportera la prospérité, etc. » Mais Michée va faire comprendre à ses auditeurs que le Dieu qui est soi-disant dans leur poche, eh bien, ce Dieu-là, c'est un Dieu extrêmement grand et puissant. Et chose importante, il est devenu, non pas leur ami, mais leur adversaire.
Comprendre pourquoi le Dieu qui a libéré ce peuple hébreu, qui l'a ensuite béni, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il devient leur ennemi ? Pourquoi il y a un tel changement ?
Oui, et c'est effectivement la question cruciale. Pourquoi le Dieu bon et miséricordieux, puisque c'est quand même ce Dieu-là que révèle la Bible, devient la menace à craindre ? Puisque Michée, quand il lance cet avertissement, il dit « Le Seigneur va témoigner contre vous, donc il va être votre adversaire. » Alors pourquoi ? Eh bien, Michée, tout au long de son livre, va dévoiler les raisons qui conduisent Dieu à être révolté contre son peuple. Alors, il ne dit pas simplement « Dieu devient votre adversaire », mais il va expliquer pourquoi. On peut l'écouter.
Alors, premièrement, dans le chapitre 2, « Malheur à ceux qui méditent le mal sur leur couche et qui le matin l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs et s'en emparent. Ils s'accaparent des maisons et portent leur violence sur leurs habitants. » Vous haïssez le bien, vous aimez le mal. Encore un peu plus loin, il dévore la chair de mon peuple, lui arrache la peau et lui brise les os. Il le met en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une marmite. Et encore un peu plus loin au chapitre 3, les chefs jugent pour des cadeaux, des présents, les sacrificateurs enseignent pour un salaire et les prophètes prédisent pour de l'argent et ils osent dire « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous ? Le malheur ne nous atteindra pas. »
Alors on voit en fait ce mal qui touche déjà les plus importants, qui profitent de leur pouvoir ou qui profitent aussi de leur position de juge, etc., pour exercer le mal, donc ils profitent de cela. Mais c'est beaucoup plus grave que simplement la tête du pays et des notables, puisque dans le chapitre 7, il va bien montrer qu'on ne trouve même plus des gens de qualité et juste dans le pays.
L'homme de bien a disparu du pays et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. leurs mains sont habiles à faire le mal. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, le plus droit, pire qu'un buisson d'épines. C'est assez dramatique, hein ?
Oui, alors on voit bien justement que même celui qui serait évalué comme étant le meilleur est finalement déjà tombé très très bas. Et là, c'est un glissement dans la culture. On peut voir que certaines cultures, parfois ça peut être dans un quartier d'une ville ou une ville ou même un pays, eh bien à un moment donné, le mal devient comme une référence. Alors même ceux qui sont bons et qui s'imaginent être bons sont déjà finalement extrêmement loin de la justice et de l'amour de Dieu. Alors avec ces paroles, Michée va dénoncer justement cette méchanceté qui enveloppe tout le monde. Dieu, lui, il n'a pas changé. Donc le problème, ce n'est pas du tout que Dieu est devenu tout d'un coup...
un Dieu dur.
Voilà, ou... exactement. Mmh. Dieu est resté le même. C'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui est bon. Mais en fait, les violences, la méchanceté, la cruauté des hommes a fait que ces hommes-là sont devenus finalement ce que Dieu rejette. En fait, Dieu ne peut plus valider ces personnes-là. Et ça, c'est très important de comprendre. C'est qu'en Dieu, il y a une référence dans la justice. On peut même avoir une justice, par exemple, pendant un temps où on avait l'esclavage qui était tout à fait autorisé, qui était légal. Et la justice allait même dire de combien de coups on pouvait donner à un esclave. On avait le droit peut-être de le mettre à mort. Donc là, la justice humaine agissait d'une certaine manière. Mais en Dieu, il y a une autre justice, une justice d'étalon, de référence, un amour de référence. Et c'est à partir de cela qu'on peut se rendre compte que même un pays qui croit être bon, eh bien, face à cette justice de Dieu, il peut être en fait contre Dieu.
Oui, c'est d'autant plus impressionnant parce qu'à ce moment-là, pourtant, le temple de l'Éternel, il est en service à Jérusalem. Et puis les Juifs, ils sont les porte-parole de ce Dieu d'amour, ce Créateur. C'est quand même un peu paradoxal.
Oui, et c'est là qu'on voit peut-être... des fois, on ne comprend pas pourquoi dans la Bible, il y a autant de messages des prophètes contre le peuple d'Israël. Mais en fait, il y a une exigence plus grande pour le peuple d'Israël qui a été choisi par Dieu pour être justement ce témoin-là. Et effectivement, le temple de Jérusalem avait un rôle pour le peuple, mais aussi un rôle plus large, comme une espèce d'une démonstration, finalement, de ce Dieu qui fait grâce. Et c'est un petit peu comme si la boîte d'un médicament, voilà, vous allez à la pharmacie, vous demandez un médicament pour que ça vous guérisse, bien sûr, et sur la boîte du médicament, c'est mis oui, avec tous les effets bénéfiques qu'il peut vous apporter, mais ce médicament, malheureusement, il est rempli d'un poison mortel, et quand vous le prenez, vous allez mourir. Eh bien, c'est exactement ce qui va arriver avec Israël, c'est-à-dire que ce pays qui avait été choisi pour être une démonstration, le porteur de cet amour de Dieu, va devenir malheureusement un exemple dramatique d'injustice. Alors, ce mensonge de la boîte de médicaments, il ne peut plus durer, et Michée annonce à ses contemporains que Dieu ne protégera plus son peuple et que des armées viendront ravager le pays.
Il y a beaucoup de prophètes qui annonçaient des malheurs comme Michée. Et est-ce que Michée est aussi quand même un porteur d'espérance à un moment donné ou à un autre ?
Alors oui, heureusement, parce que si Michée a vu Dieu se lever pour éradiquer le mal, il voit aussi Dieu se lever pour restaurer et prendre soin de son peuple. Et ça, je trouve toujours excellent parce qu'on voit ce Dieu qui est tellement juste qu'il ne peut pas supporter le mal et qui doit agir contre le mal. Mais on voit aussi ce Dieu qui est tellement plein d'amour, que finalement, sa grâce va même plus loin que sa justice. Et dans le chapitre 5, Michée annonce aussi quelque chose d'assez extraordinaire, puisque c'est le mystérieux destin d'une petite ville du pays.
Voilà ce qu'il dit. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Alors on sait que c'est à Bethléem que le Christ est né. Est-ce qu'on peut dire que Michée, il a vu cette naissance plusieurs siècles à l'avance ?
Alors c'est pour moi, ce livre de Michée délivre un message très fort parce que, on l'a dit, Michée c'est un simple homme, c'est pas du tout un grand savant qui a fait toutes les universités de l'époque, c'est pas un grand roi, c'est pas quelqu'un qui est riche, il est humble. Et selon les critères du star system de l'époque, Michée, c'était le pauvre type insignifiant, etc. Et pourtant, c'est par cet homme que Dieu se fait connaître et qu'il va révéler. Et ça, c'est quand même impressionnant parce qu'aujourd'hui, oui, c'est facile de dire oui, Bethléem, on sait l'histoire. Mais lui, il annonce ce Dieu qui se lève pour sauver. Et lui, il discerne que dans une toute petite ville, quelque chose d'insignifiant aussi, eh bien, là va se passer un miracle parce que Dieu lui-même est humble et qu'il va se manifester humblement dans cette ville. Mais cette manifestation humble dans cette ville de Bethléem, eh bien, va donner lieu à quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que nous pourrons aussi vérifier avec le venu de Christ. Christ, eh bien, était quelqu'un de humble, d'insignifiant, aux yeux du star system aussi de l'époque. Mais c'est au travers de lui que le salut arrive.
Donc un Dieu puissant qui, vous l'avez dit, se révèle humblement dans la justice et dans l'amour.
Oui, et c'est Michée, il est éclairé par cette vraie connaissance de Dieu. Et ça, pour moi, c'est toujours très impressionnant parce que beaucoup de gens croient connaître Dieu, ils croient le connaître en imaginant cette grande puissance de Dieu. Mais finalement, la plus grande dimension de Dieu, ce n'est pas sa grandeur. Pour nous, on verra tout de suite cette grandeur comme étant la chose la plus significative. Pas du tout. Cet amour qui nous permet de vivre une relation avec lui, c'est ce qui est le plus important. L'amour de Dieu est plus grand que sa grandeur. Ça, c'est quand même assez étonnant. Et Michée ne va pas simplement rester à quelqu'un qui proclame des choses sur Dieu, mais on voit aussi que lui, il va vivre une relation avec Dieu. Donc ce petit homme simple, eh bien, il est le copain de quelqu'un de beaucoup plus grand. Et il a une intimité avec Dieu. Et on peut écouter ce qu'il dit alors même qu'il y a des temps très sombres qui s'annoncent.
Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel, je suis rempli de justice et de vigueur. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera, l'Éternel sera ma lumière.
Alors, grâce à cette relation intime et personnelle avec Dieu, Michée est illuminé d'espérance. Et il comprend que malgré toute la méchanceté des hommes, eh bien, la justice et la bonté de Dieu vont finir par triompher. Et Michée célèbre cette générosité divine. On peut écouter ses toutes dernières paroles qu'il y a dans ce livre.
Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne les méchancetés, qui oublie les péchés? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, et il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alors Jacques Daniel, avec ce livre de Michée, on a pu percer un tout petit bout les mystères spirituels. On a vu aussi que Michée dénonçait le mal et qu'il gardait l'espérance pour l'avenir. Ce serait quoi pour vous la parole de Michée que vous nous proposeriez d'emmener avec nous à la fin de cette émission?
Alors s'il faut choisir une parole, je prendrais une que l'on trouve dans le chapitre 6, parce que Michée va nous partager la perplexité de l'homme qui désire effacer ses fautes et plaire à Dieu. Quand on regarde notre propre vie, on voit toutes sortes de choses qui sont là et qui peuvent nous porter à la culpabilité. Comment est-ce qu'on peut finalement régler ce problème avec Dieu? Est-ce qu'il faut faire des sacrifices? Est-ce qu'il faut multiplier des offrandes? Est-ce qu'il faut faire des messes, des cultes, des prières? Ou bien de se mortifier? Il y en a même qui vont se frapper. Non, ce que va dire Michée, c'est que toutes ces choses ne peuvent pas vraiment purifier l'homme. Alors Michée, dans ce chapitre 6, va nous rappeler la juste, la bonne voie à suivre. Et c'est ce verset que je trouve assez excellent qu'on peut écouter maintenant.
On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu.
Alors voilà, pratiquer la justice, aimer et être humble, ce sont les trois attitudes qui plaisent à Dieu. Et ce n'est pas un hasard parce que tout le message de la Bible va nous révéler que Dieu est juste, qu'il est amour et qu'il est humble. Alors voilà, c'est ce message extraordinaire.
Les feux du projecteur de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques-Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25 301 Pontarlier-Sedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt.